Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Louis Gerbier.
Grusgott, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du paddock RMC. On va bien entendu débriefer ce Grand Prix d'Autriche qui a vu la victoire de Lando Norris et qui revient à 15 petits points du leader du championnat et coéquipier Oscar Piastri. Notre équipe de folie, les amis, je vous la présente, notre team principal, fidèle au poste, Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Eh ben salut Louis, en autrichien dans le texte, tu m'impressionnes. Grusgott, Grus, c'était un cirque, non?
Ouais, c'est ça, c'est ça. Pas autant que... Enfin, plus
oui,
un cirque.
Pas autant que la Formule 1.
Exactement. Voilà. Notre ingénieur, créateur de contenu Formule 1, Alexandre Caldi, ça va Alex?
Hello, j'espère que ça va. Bah écoute, ça va. Ouais. Beaucoup de choses à dire
salut
sur
Alex.
Un certain Franco Colapinto.
Ah, restez bien à l'écoute, messieurs. Et le nouvel ingénieur que vous commencez à connaître, Tristan Van Dendrich. Salut Tristan.
Salut, salut tout le monde. Salut Jean-Luc, salut Alex.
Salut Tristan.
C'est un peu la prise de pouvoir d'off-track, là, les amis.
Non.
Avec Alex, vous êtes tous les deux.
Voilà.
Vous êtes tous les deux d'off-track. C'est un contactu Formule 1 sur les réseaux qu'on vous conseille vivement. Et puis on embrasse Nico qui a plus de points sur sa super licence mais qui reviendra une fois son stage de récup de points effectué.
Il ouais, est Flav lui au Predator, il a dit qu'il revenait.
Voilà, il est évidemment en vacances, on l'embrasse. Allez tiens, avant le sommaire, on va faire la petite tradition les amis, ce sont les notes, une note sur 5, on rappelle Jean-Luc, ta note du Grand Prix d'Autriche.
Ah écoute, là aussi à boire et à manger, allez 3.
3 Alex.
Oh, je vais partir sur un bon 4 quand même, hein, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en vrai. Hein.
Ah, un peu d'optimisme. Et Tristan?
Moi, je coupe la poire en deux, 3,5.
Et voilà, c'est l'avantage d'avoir à y répondre en dernier, c'est que...
Tu es normand, non? Ouais, tu es normand.
On peut se placer au milieu, tranquille. Allez, je vous donne le sommaire. On va évidemment parler du retour en grâce de Norris ce week-end. Un week-end très solide pour faire oublier son crash du Canada. Ensuite, on abordera l'avance impressionnante de son écurie, puisqu'avec Piastri, ils sont partis tous les deux faire leur petite course, 20-30 secondes devant. Le gros loupé du jeune Antonelli qui a freiné au panneau trop tard. Alonso, l'immortel, qui fait encore une très belle course, lui le quadra. Et puis on parlera de Yuki et le baquet maudit, puisque décidément personne n'arrive à en faire quelque chose de ce baquet. Et on parlera avec Alex, vous l'avez entendu, il est chaud, chaud du réchaud pour nous parler de Colapinto, qui lui aussi finalement est un peu dans un baquet maudit. On dira un mot du week-end cauchemardesque de Williams. Et pour finir, avant notre point habituel sur les Français, on va se poser la question... avec Tristan particulièrement. Qu'arrive-t-il à Sauber? Qu'arrive-t-il au Sauber? Qu'est-ce qu'elles font dans les points? Moi, j'y comprends plus rien. Voilà, le tour de chauffe du débrief du Grand Prix d'Autriche est terminé. Les gommes sont à température. Éteignez les feux, c'est parti. Bon alors les amis, on a assisté à un beau Grand Prix. Certains sont plus optimistes que d'autres sur la note, mais globalement quand même la note est plutôt bien. Mais surtout Jean-Luc, tout simplement, on avait quitté Lando Norris à moitié dans la boîte de vitesse de son coéquipier, l'autre moitié dans le mur du Canada. On le retrouve quasiment grand chelem, je crois. Il a à peu près été en tête tout le week-end. Il fait une qualif où il met une tôle clairement à tout le monde. Jean-Luc, tu l'avais vu venir ce week-end de Norris?
Bah écoute, je ne sais même pas si lui l'avait vu venir. Non, il s'est magnifiquement rebecté. Là, il faut être sérieux deux secondes et lui rendre hommage, parce que c'est vrai que c'était quand même un coup au moral déjà. Il a battu sa coulpe, il s'est excusé comme certains l'ont écrit auprès de tout le monde. Tous ceux qui étaient là ont eu droit à une excuse. Il a bien fait et il a rebondi. Alors écoute, effectivement, il n'a peut-être pas tout à fait le même regard. On ne va pas épiloguer non plus, parce que peut-être qu'il va nous en faire une belle devant son public hein, en fin de semaine, mais je l'espère pas, puis surtout pour l'intérêt du championnat, parce qu'on a bien compris là une nouvelle fois que les McLaren avaient vraiment un boulevard d'avance. Alors tu parlais de cette qualif remarquable et il faut surtout pas l'enlever. Le tout petit bémol, tu le sais bien, c'est que le tête à queue de Pierre Gasly en toute fin de Q3 a empêché Oscar Piastri évidemment de terminer son tour. On sait pas à combien il aurait été de son équipier. Et puis Verstappen, évidemment, la bombe des qualifs n'a pas pu, évidemment, donner tout son potentiel. Donc, ça le laisse, effectivement, 5 dixièmes, c'est un gouffre, hein, aujourd'hui, en qualif. Après, il a assuré de main de maître ce Grand Prix. Il n'a pas failli, parce qu'il ne l'a pas lâché, Piastri, et ça, on s'en doutait, notamment dans le premier stint. Hein. Après, bon, moi, j'ai mon opinion là-dessus, c'est pour ça que je mets qu'un petit 3, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais McLaren le fait subtilement, mais l'a bien fait pour protéger Norris, hein, comme par hasard, en arrêtant Piastri beaucoup trop tard. Bon, bref, ça veut dire que Piastri n'est pas parvenu à ses fins, malgré effectivement quelques freinages un peu limites. Bravo Lando, ça relance le championnat, et tant mieux, parce qu'on en a besoin aujourd'hui, puisque je crois que du côté de Red Bull, et c'est pas qu'un effet de manche, on a compris que bah, là, pour les deux championnats, c'était râpé, quoi.
Ah oui, et puis vu la course des deux hier, c'est pas là qu'ils sont rattrapés des points.
Non.
Toi, Alex, tu as trouvé comment Lando Norris ce week-end, et puis surtout Piastri justement dans un peu dans le rôle du deuxième cette fois, où il a pas réussi à trouver la solution, il a même bloqué les roues et il s'est fait engueuler à la radio. Donc qu'est-ce que tu penses du week-end de l'Australien et du Britannique?
Ah, déjà sur Oscar Piastri, c'est dommage, hein, on aurait pu avoir un doublé Ferrari qui aurait pu nous être proposé, merci à Oscar Piastri, ça aurait pu être ça. Mais finalement ce qui est vrai, c'est plus particulièrement sur Lando Norris, moi je suis très content, je suis très heureux, parce que là quand on voit un Lando Norris ainsi, on voit l'un des meilleurs pilotes de la grille, il a clairement été le meilleur hier en gagnant ce Grand Prix avec une certaine solidité. Et en fait c'est cette solidité qu'on demande pour devenir champion du monde. Et ce qu'a montré hier Lando Norris, c'est ce qu'il faut pour devenir champion du monde. Maintenant il faut le faire régulièrement. Alors il l'a fait à Monaco par exemple, où il l'a fait un week-end de Grand Prix absolument fantastique, et le Grand Prix d'Autriche ressemble beaucoup à celui de Monaco. Mais le problème avec Lando Norris, c'est qu'il fait ce genre de Grand Prix peut-être tous les 2, 3 ou 4 Grand Prix. Ça manque de régularité par rapport à Oscar Piastri qui se troue entre gros guillemets, parce qu'il termine finalement deuxième de ce Grand Prix, donc il ne perd qu'une petite marche sur Lando Norris avec dans sa globalité, il revient, il me semble, Lando Norris à 15 points. Mais ça fait plaisir de voir un Lando Norris ainsi, surtout rebondir après le Canada avec le crash qu'il a causé, l'accident qu'il a causé, le tort qu'il a causé forcément dans l'univers McLaren. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il peut être régulier ainsi, surtout que le prochain Grand Prix, bah, c'est Silverstone, c'est le Grand Prix à la maison pour lui, c'est le Grand Prix à la maison pour McLaren. Et comme l'a dit Jean-Luc, c'est vrai que bah, on ne sait pas ce qui peut se passer au prochain Grand Prix, peut-être qu'il peut nous faire une tôle, on va dire ça ainsi.
Bah tiens, avant de te donner la parole, Tristan, on va tout simplement écouter Lando Norris hier.
It was tricky for sure. It wasn't without a couple little mistakes.
C'était une course difficile pour sûr, surtout le premier stint. Les 20 premiers tours, j'avais Oscar derrière avec son DRS. Il fallait que je gère la batterie et lui, le DRS lui permettait d'avoir souvent la batterie plus forte que moi. Mais bon, on a eu une bataille très bonne et surtout très fair. Alors Tristan, toi, ce petit duel McLaren, ça, on commence à s'y habituer. Hier, on n'est pas allé trop loin et finalement, on a vu aussi... McLaren prend de la radio, très clairement, avec Piastri, ce qui est peut-être une évolution. T'en as pensé quoi de ce duel? Finalement, on y arrive chez McLaren à les faire rouler sans trop de problèmes?
Bah, on arrive à les faire rouler sans trop de problèmes, et quand un pilote a presque failli, ça n'a pas été le cas heureusement pour McLaren, ils ont tout de suite, comme tu l'as dit, ils sont tout de suite revenus à la radio pour le calmer, le faire redescendre, et je ne sais plus exactement à quel tour ça se passe, mais il restait quand même encore plus de la moitié du Grand Prix, donc c'est important de faire
c'est
ça.
C'est au 20e. Hein.
20e tour, et de prendre la radio, et quand il en reste, bah, il en reste 50, ouais. C'est important de prendre la radio. Après, sur Oscar Piastri et Lando Norris, j'ai plus été déçu d'Oscar Piastri que vraiment impressionné par Lando Norris, parce que sa qualification, comme tu l'as précisé aussi, elle arrive après une erreur de Pierre Gasly, et donc pour les autres concurrents ça a été compliqué de faire un tour, donc même si le gap paraît énorme, j'ai pas non plus été impressionné, même s'il fait une très bonne qualif. Et après en course, c'est le genre de course où je m'attends, où il y a une safety car simplement au premier tour, où je m'attends à vraiment qu'il mette 10-15 secondes à son coéquipier, et au final c'est Oscar Piastri qui résiste et revient presque dans les derniers tours à portée de DRS, un peu grâce au drapeau bleu aussi. Mais un bon week-end pour Lando Norris, comme l'a dit Alex, à continuer dans la durée et dans la longueur, et pas faire comme Monaco avec juste un très bon week-end une fois de temps en temps. Mais après, j'ai plus été déçu de Oscar Piastri qui n'a pas réussi à prendre le dessus sur ce week-end de Lando Norris, alors qu'il semblait avoir la vitesse, en tout cas en rythme de course.
Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué, parce que justement, ces dernières semaines, on était souvent à constater et à être impressionné que bah, normalement, quand Oscar, il a de quoi doubler, il y arrive, quoi. Et donc, c'est un peu la première fois que le fameux tueur au sang-froid n'a pas réussi à faire ça, quoi.
Surtout que c'est un Grand Prix où il y a pas mal de solutions de dépassement. On arrive avec des grandes vitesses sur des gros freinages. Donc voilà, j'ai senti un Oscar Piastri un peu plus fébrile que d'habitude. Et c'est là où on a vu aussi ses blocages et ses petites erreurs. À voir.
Mais alors, surtout pour prendre un peu de recul sur la course, les McLaren, contrairement au Canada où on a eu une course assez homogène, les McLaren, Alex, elles sont parties tout de suite, c'est-à-dire que Leclerc, il n'a même pas été deuxième plus d'un virage. Et une fois qu'elles étaient toutes les deux devant, on a vu, elles ont pris quoi, 5 secondes en l'espace de 3-4 tours, c'était assez impressionnant. Ça doit pas rassurer les autres, Alex, une telle avance.
En fait, ils sont devant, mais de très très loin. Et c'est pas essentiellement le dimanche de Grand Prix qui a peut-être plus fait comprendre ça. C'est plutôt le vendredi. Regardez la FP1 de Alex Dune, par exemple. Alex Dune qui prend la voiture, qui est un pilote de F2 de la McLaren Academy. Il termine quatrième avec ses premiers tours de route dans cette McLaren de 2025. Alors qu'il n'avait jamais piloté dans cette McLaren précisément avec cet aéro, toute la réglementation 2025. Et il vient prendre la quatrième place. Ça montre à quel point cette voiture est d'une performante. Mais surtout, c'est la plus facile pour s'adapter, pour ensuite prendre de la confiance et derrière performer. On le voit très bien avec Lando Norris et Oscar Piastri qui arrivent à se mettre dans la bonne fenêtre de tir extrêmement rapidement et qui sont chirurgicales extrêmement rapidement. Et c'est pour ça que Lando Norris et Oscar Piastri lead le championnat de très loin tout de même sur Verstappen qui n'a pas marqué de points aujourd'hui. Mais surtout, vous remportez le titre constructeur extrêmement rapidement, peut-être même dès le Grand Prix de Singapour.
Ouais, ouais. Et est-ce que Jean-Luc, pour le coup, du coup, c'est pas ça finalement qui va permettre à McLaren de bien gérer le duel entre les deux, puisqu'ils vont tellement avoir d'avance que ça va les laisser en fait tranquilles. Enfin, on sera pas à un dépassement qui peut te faire perdre un championnat, et ça va peut-être détendre tout le monde aussi.
Bah, écoute, comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, je crois que le titre constructeur, effectivement, comme vient de le dire Alex, bon, c'est qu'une question de Grand Prix à venir, hein, effectivement, après c'est un calcul. Quand tu penses qu'ils ont déjà pratiquement le double là, après 11 Grands Prix, et comme vous le savez, évidemment, plus il y a de Grands Prix, plus c'est difficile de conserver le double de points. 417 contre 210, enfin, à 3 points près, hein, donc ça veut dire que c'est une écrasante domination. Alors, on a parlé dans le passé, effectivement, que c'était ennuyeux quand Mercedes écrase et tout, après quand effectivement Red Bull écrase et tout, là je crois que là c'est une domination absolument écrasante et les autres ne peuvent rien faire, ils l'ont compris, hein. Ça veut dire qu'ils exploitent, bon vous savez, nouveau train avant, vous l'avez vu comme moi, nouvelle moustache etc, petite correction au train arrière, mais enfin ils ont tellement d'avance, c'est énorme, hein. En gros selon les circuits et selon la température, parce que ça joue énormément, vous le savez bien, les Mercedes dès qu'il fait chaud, elles ne mettent plus un pied devant l'autre ou quasiment, à l'inverse des Ferrari que ça avantage un tout petit peu, ça a toujours été le cas avec Ferrari, c'est d'ailleurs assez marrant, c'est constant dans l'histoire, hein, de la Formule 1, les Ferrari marchent toujours mieux quand il fait chaud. Donc bon, en deux mots, ils ont 2, 3, 4, 5 dixièmes d'avance selon les cas, après il faut les gérer, alors maintenant il faut gérer les pilotes. Alors effectivement, il y a eu cette alerte, on va dire, au Canada, on en a tiré les leçons, on en a parlé, là on a compris que, moi je suis pas tout à fait de... C'est normal, c'est pour ça qu'on discute de la vie de Tristan. Il m'a pas déçu, Oscar. Il a été très bon dans le premier stint. Franchement, il a essayé d'attaquer sous toutes les coutures. Et puis, il a compris que pour le passé, Lando, qui était solide, il allait falloir qu'il prenne des risques et qu'il mette en péril, peut-être justement, le fait de ne pas terminer tous les deux, hein. Et là, on lui a un petit peu soufflé dans les bronches très gentiment, lui disant, bon, faut pas recommencer ce genre de manœuvre. Je crois qu'il avait compris. Et hop, immédiatement derrière, vous l'avez vu, on arrête Lando, hein, au 21e tour. Et le gap, il est là. C'est ce que j'évoquais. Maintenant, je vais rentrer dans le sujet, dans le vif. Ben comme par hasard, on attend 4 tours et on voit tout de suite qu'il perd énormément de temps. Oscar, alors après, on entend les conversations effectivement à la radio. Il dit à l'ingénieur, tu peux tenir encore un peu ? Ben oui, ça va, bon. Mais on voit bien qu'il perd du temps, hein. C'est une évidence absolue. Ça s'appelle l'undercut, hein, même si Norris est devant. Et quand il ressort, il est à 6 secondes. Et puis ça y est, le Grand Prix est joué. Parce qu'après, Lando, il gère avec les attardés, les dépassements, les 3 zones de DRS, tout ce que vous voulez. Ben, il termine avec une bonne seconde, enfin un peu plus à l'arrivée, mais... Piastri ne revient qu'à une seconde, bah voilà, le tout s'est joué à la fin du premier stint. C'est pour ça que je mets cette note un peu en réserve. J'ai beaucoup aimé le premier stint parce qu'ils sont vraiment bastonnés. Et puis après, bah, on a fait en sorte chez McLaren, sans le faire ouvertement, mais pour moi c'est très clair, hein, de calmer Piastri. Hein, bah, tiens mon petit gars, on va te mettre à 6 secondes et maintenant vas-y, amuse-toi.
Et puis, alors, puis juste ne pas oublier Alex. Oscar Piastri se battait contre Lando Norris qui adore ce circuit d'Autriche, hein. C'est son circuit favori, c'est là où il a marqué le plus de points, le circuit il a marqué le plus de points dans sa carrière, donc c'est là
malgré Verstappen l'an dernier, tu te rappelles,
et en plus bien sûr, mais en plus il se battait pour la victoire l'an dernier, très bien, c'est à noter aussi, donc ça montre à quel point Lando Norris sur ce circuit est très difficilement prenable, quoi.
Et alors à 6 secondes ils ont mis Piastri, certes, mais à 20-30 secondes il y avait les autres, c'est-à-dire les Ferrari qui sont plutôt contentes de leur week-end, Alex, mais voilà, les améliorations ont l'air de faire le boulot, mais tu te retrouves à 30 secondes, ça doit quand même être assez frustrant.
Ouais, je pense que quand tu es patron de la Scuderia Ferrari ou quand tu es tifosi, tu vas pas regarder ce que fait McLaren parce que la situation est tellement compliquée et complexe au sein de la Scuderia. Ferrari est malade aujourd'hui, hein, par rapport à tout ce qui se produit depuis le début de la saison. Le fait que la voiture n'a pas les performances auxquelles on s'attendait aujourd'hui. On s'attendait à ce que Ferrari soit vraiment nettement plus proche quand même de McLaren. Et pourtant, on en arrive à aujourd'hui où on va se contenter d'une troisième place parce que c'était ce qui était le mieux possible. Et aujourd'hui, les améliorations, notamment au niveau du plancher plus précisément, ont été efficientes, ont été efficaces, parce qu'aujourd'hui Ferrari, durant ce week-end de Grand Prix du moins, a réussi à aller se classer assez haut tout de même, deuxième et quatrième en qualification, et prendre la troisième et la quatrième position. Leclerc aujourd'hui, heureusement qu'il y a Charles Leclerc chez Ferrari, parce que sinon Ferrari serait vraiment dans de grosses difficultés. Rendez-vous compte, 3 podiums sur les 4 derniers Grands Prix, 4 podiums au total pour Charles Leclerc sur ce début de saison, c'est vraiment à mettre en valeur pour Charles Leclerc, peut-être même le meilleur début de saison qu'il a produit par rapport au contexte aujourd'hui de la Scuderia Ferrari. Maintenant, c'est vrai que Ferrari se doit d'aller gagner, mais c'est clairement un bon pour le moral aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé durant ce week-end de Grand Prix, surtout quand on sort du Grand Prix du Canada qui était vraiment catastrophique encore une fois pour Ferrari, quoi.
Au moment où tu as dit que c'est peut-être la meilleure saison depuis le début de sa carrière, enfin le meilleur début de saison, j'ai vu Tristan dodeliner légèrement.
Parce que 2024 a été pour moi la meilleure saison de Charles Leclerc. Par contre, au vu du contexte aujourd'hui de où en est la Scuderia Ferrari et à quel point aussi du fait que Leclerc est leader de la Scuderia alors qu'il a à ses côtés quand même Lewis Hamilton, ce que produit Leclerc aujourd'hui pour aider Ferrari qui est malade, oui, là clairement pour moi ça fait partie peut-être des meilleurs débuts de saison de Leclerc aujourd'hui.
Ah, Tristan.
Ouais, pour le meilleur début de saison, moi je voulais juste simplement parler de 2022, parce que bon, il gagne quand même beaucoup, et en 2022, avant la directive technique qui vient un peu pénaliser la Ferrari, ils sont quand même très très forts. Mais c'est simplement une observation de ce week-end. Je sais pas si certains ont eu le temps, mais je vous invite à aller vous mettre sur la caméra embarquée de Charles Leclerc sur tout le Grand Prix, et en fait on lui a demandé de faire du lift and coast, donc de relâcher avant chaque freinage. Alors au début du Grand Prix c'était sur un virage, et puis après ça a été du lift and coast sur tous les freinages qu'il y avait, et ça montre aussi à quel point cette Ferrari elle fonctionne quand il fait plus chaud, ça c'est sûr, mais elle est aussi ça démontre aussi à quel point elle a une fenêtre d'exploitation minuscule en 2025, et c'est ça qui est assez dur, je pense, pour les pilotes comme Lewis Hamilton qui vient d'arriver pour comprendre la voiture, mais même Charles Leclerc pour l'exploiter à son maximum, c'est très très compliqué. Et ça montre que oui, l'amélioration de plancher a semblé en tout cas les aider un petit peu, mais ça montre aussi que peu importe les conditions, la fenêtre d'utilisation est tellement fine que c'est vraiment dur d'aller tirer le meilleur parti de cette SF25.
Pour expliquer juste le lift and coast, il a été réalisé par Ferrari pour à cause de configurations délibérément plus fermées et agressives, parce qu'en fait le refroidissement des freins et du moteur était nécessaire, donc ce qui a permis de gagner quelques points d'efficacité sur un tour lancé, mais derrière ça a imposé une gestion de la température en course, donc le lift and coast délibéré était obligatoire pour Leclerc et aussi pour Lewis Hamilton, ce qui est très dommageable pour un pilote de piloter en lui demandant tout le temps vas-y, faut que tu fasses du lift and coast. Ouais,
lâche 50 mètres avant le point de freinage, vous allez voir sa tête à la fin des 70 tours.
On n'est pas en IndyCar ou enfin bref. Les amis, surtout l'événement qui crée un peu toute la folie du début de course, c'est quand même le non-freinage, parce que c'est pas appelé ça un freinage, le non-freinage d'Antonelli. Jean-Luc, décris-nous un peu la situation pour ceux qui n'auraient pas vu les images, parce que quand même celui-là, il est beau.
Ah bah écoute, quand j'ai commenté ça, moi, en direct sur RMC, effectivement, j'ai tout de suite dit l'erreur classique du rookie. Mais c'est normal, on va pas lui taper sur la tête. Il sort de son premier podium au Canada. Il a 18 ans, le gamin, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Là, il était un peu chaud. Bon, il s'est fait piéger, hein, c'est le cas de le dire. Il était loin derrière. Lui, il prétend qu'il n'a pas cherché à freiner très tard, plus tard que d'habitude. Bon, il a failli ramasser Lawson, déjà. Lawson s'est passé très fin. Et puis, il a pris Verstappen. Ça s'appelle un strike, hein, tout simplement. Il reste sur le carreau. Alors moi, ce qui m'a étonné, bon, sur le coup, vous avez entendu comme moi les mots de Verstappen, évidemment, il prend des tours et c'est normal à la radio. Et puis après, finalement, le gamin vient s'excuser, il revient le voir, alors que lui, Verstappen, est en train de regarder les 24 heures du Nürburgring à la télé, il regarde même pas la fin du Grand Prix, et puis il s'excuse à nouveau, et Verstappen dit, c'est un bon petit gars, hein, il est rapide et tout. Alors faut-il y voir quelque chose sur les supputations éventuelles de vous me voyez venir, oui. D'une cohabitation ultérieure dans certaines écuries, je ne sais pas. En tout cas, il a été bizarrement courtois, Verstappen, et pas trop énervé, alors qu'il venait carrément de le mettre dehors. Et bon, pour là aussi, expliquer, j'y reviens à chaque fois, ma note assez faible, c'est qu'il a manqué un Verstappen hein, dans ce peloton. Voilà, on comprend que dès qu'il n'est pas là, j'allais dire, on est dans l'ordre des choses, les McLaren, les Ferrari, la Mercedes, alors que Verstappen, je pense que sa place c'était entre les McLaren et les Ferrari, si vous me voyez venir. C'est mon opinion, en tout cas. Je pense qu'il aurait été capable de faire ça. Est-ce qu'il aurait été capable d'inquiéter, de perturber un peu les McLaren? Je ne pense pas. Mais je pense qu'il y aurait peut-être eu une belle bagarre avec Charles, par exemple, tu vois. Donc ça aurait donné un petit peu de peps. Voilà pourquoi je mets 3 et pourquoi on peut regretter, déplorer cette élimination. Bon, maintenant, comme l'a dit Verstappen, des bêtises comme celle-là, lui il en a fait aussi. Tous les grands pilotes en ont fait dans leur carrière au début. Bon, il n'y a rien à dire. Le gamin, on voit qu'il est encore un poil tendre et qu'il a beaucoup à apprendre, et c'est tout à fait normal.
Ouais, mais là, il a foncé tout droit quand même.
Non, c'est que, mais en vrai de vrai, ça aurait pu être un peu plus dramatique, surtout quand
on est sur une grosse épingle.
En F2, il y a eu des tonneaux, notamment parce il y a même eu plusieurs incidents de voitures qui s'envolent à cause de
quand
la banane.
Quand ils s'empilent à la fin, à 4.
Non, mais ça aurait pu être nettement plus dramatique. Mais bon, ça arrive pour Andrea Kimi-Antonelli. Et je rejoins Jean-Luc par rapport au fait que c'est vrai qu'il a été bien tendre sur Antonelli. Et peut-être qu'il prépare une certaine cohabitation. Mais surtout vu tout ce qui s'est dit ce week-end.
Ah ouais, donc vous là, si je vous demande de prendre les paris, vous le verriez quand y aller ? Potentiellement dès cette saison, dès la fin de la saison ou pour dans 2 ans?
C'est un peu maintenant ou jamais, hein, pour être honnête.
Je pense qu'il attend
un tremblement de terre,
Il attend d'en savoir plus. En tout cas, il ménage.
Mais en fait, pour rebondir, c'est quand vous posez la question, quand les questions se posent à Verstappen, il dit pas je suis chez Red Bull. Mais tant qu'un pilote dit je suis pas chez Red Bull l'année prochaine, alors qu'il a un contrat jusqu'en 2067, semblera-t'il. Si il dit l'année prochaine je suis chez Red Bull, on arrête de discuter. Merci, bonne soirée. Et de l'autre côté, quand Toto Wolff n'assure pas un avenir de Russell alors qu'il est le leader absolu et qu'il tient Mercedes à bout de bras, je pense d'ailleurs que c'est un peu un manque de respect envers Russell de ne pas le prolonger,
surtout
à fin juin, par rapport à tout ce qu'il produit et tout ce qu'il aide aussi par rapport à Andrea Kimi-Antonelli. Et là, on en a une situation où aucun des deux, Toto Wolff ou Verstappen, affirme une chose par rapport à l'avenir et laisse planer un doute, ce qui est pour moi aussi un manque de respect forcément pour Russell, encore une fois.
Pardon, 146, j'allais rappeler les points. 146 à 63 quand même. De la part de Wolff, là c'est moyen. Ouais. Franchement, je souscris tout à fait à ce que dit Alex.
Tristan. C'était simplement pour revenir sur George Russell. C'est assez dur, mais en même temps, comment en vouloir à Toto Wolff d'essayer d'avoir Max Verstappen? C'est quand même le meilleur pilote sur la grille depuis maintenant 3, 4, 5 ans même. Moi, je comprends l'envie pour Toto Wolff de vouloir recruter c'est vraiment un diamant brut, Verstappen. Alors après, peut-être qu'il se ménage avec.
Attendez, il y a deux baquets dans cette écurie. Pourquoi vous le voyez pas?
Il a tellement misé sur le pays.
Dernier arrivé, premier parti.
Mercedes, c'est pas une écurie comme Red Bull.
Il a investi sur lui. Puis il l'a adopté, vous savez bien.
Il a même fait réviser le bac, apparemment.
Alex.
Non, mais ce qui est fou, c'est-à-dire qu'il a quand même dit, Toto Wolff, dans la déclaration, que. Il envisageait même un line-up du coup George Russell, Max Verstappen, si cela pouvait arriver.
Il bouscule
Hamilton pour pas lui faire une prolongation de contrat digne de Lewis Hamilton, pour dire en gros Antonelli est là, donc on va pas te faire une grosse prolongation de contrat. Tu mets Antonelli Antonelli aujourd'hui pour lui dire ah, attends, peut-être ouais. que tu vas partir finalement. Mais là, tu tues la carte d'Antonelli aussi derrière.
C'est... Non, ils vont engager une troisième voiture, c'est certain.
Et même pour rebondir sur ce que dit Tristan, alors j'adhère totalement à ce que tu dis, surtout le fait que bah, c'est le meilleur pilote du monde, pourquoi on va pas recruter le meilleur pilote du monde. Je suis d'accord avec toi. Sauf que quand en début de saison, tu arrives et tu dis ah, on va arrêter de flirter avec Max Verstappen parce que ce qu'on a aujourd'hui avec Russell Antonelli, c'est eux notre avenir. Et là, trois mois après, ah, peut-être ouais, que ce que j'ai dit, c'était pas si vrai finalement. Je retire ce que j'ai dit.
C'est le monde de la Formule 1, ça se contredit. Voilà, toutes les deux semaines, toi, ça se contredit. Donc, et en plus, peut-être qu'au début de saison, Max Verstappen était très clair et que. Au final, peut-être qu'il a un petit peu retourné sa veste entre guillemets et qu'il s'est peut-être dit ah, chez Mercedes ça a l'air quand même pas mal. Donc ouais, pour moi c'est normal de se renseigner pardon, et c'est normal d'avoir des petites discussions comme ça. En tout cas, ça va rendre l'intersaison très très intéressante.
Ah, si tu permets Tristan, la question c'est même pas est-ce que Mercedes c'est bien ou pas, parce qu'on sait qu'il a une propale chez Aston hein, aussi évidemment, oui. c'est à livre ouvert, mais Russell c'est surtout aussi. Est-ce que je quitte Red Bull ou pas, est-ce que je quitte le giron de Red Bull, et est-ce que les assurances concernant le moteur hein, on le rappelle hein, puisque là on va changer complètement d'orientation, ils vont perdre le Honda, et est-ce que le Ford Red Bull, ou je ne sais pas comment on va l'appeler, sera performant. Je pense que l'inconnu, elle est là. Et je pense que lui, pour Verstappen, le temps roule. Il a un baquet dans une des meilleures équipes, quoi qu'il arrive. Il attend de savoir si ça vaudra le coup de rester ou pas. Et lui, il a le temps. Les autres ne l'ont pas, notamment Toto Wolff.
Il y en a un autre qui a de moins en moins le temps, mais qui est toujours là. C'est notre ami Fernando Alonso. Qui a 92 ans depuis une semaine. Non, il a quoi ? Il a 42 ?
Il va avoir 44.
J'espère qu'il a 44. J'espère qu'il adopte les bons gestes en cette période de canicule.
Ouais, on l'a laissé près d'un ventilo avec un drap mouillé. C'est odieux ce que tu fais, Tristan. Les vieilles personnes ont le droit de... Non, mais c'est vrai que, Jean-Luc, tu voulais qu'on en dise un mot aujourd'hui. C'est incroyable. Enfin, il était quand même déjà en F1. Tristan était pas né. Faut quand même. Enfin, on se rend compte un peu.
C'est fou ça quand même.
Donc, il est quand même épatant ce gars-là.
Bah, écoute, oui, parce qu'il a toujours la passion. Déjà, c'est quand même très très important. Et puis, bah, on le voit, il a toujours la vitesse. Alors, il a eu un début de saison extrêmement difficile, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et effectivement, ses débuts à Melbourne, c'est vrai que ça remonte maintenant à 2001. Donc, toi, Louis, t'étais petit également.
Ah oui, non, mais je rigole, mais j'étais pas vieux non plus, ouais, c'est clair.
Non, mais écoute, tu sais, c'est le temps qui passe. Vous verrez, jeunes gens, ça passe beaucoup plus vite que vous ne le croyez, mais beaucoup plus vite. À un moment, vous vous retournez, vous dites, ah ouais, on a déjà déroulé tout ça comme câble. Bon, bah c'est le cas de Fernando. Alors, je pense qu'il l'a dit très clairement et je pense que c'est le genre de type à le faire. Le jour où il ne se sent plus performant, il arrêtera. De toute façon, là aussi, il a, j'imagine, un contrat d'ambassadeur, de ce que vous voulez, de conseiller, de consultant chez Aston quasiment à vie. Hein. Un peu ce que à mon avis, Hamilton a négocié chez Ferrari et que Mercedes ne voulait pas l'accorder. Voilà, pour être très clair, là aussi. Donc, je pense qu'il sera honnête et je pense qu'il a démontré là encore que quand la machine, qui est pourtant rétive, hein, délicate, le lui permet, qu'on a une stratégie audacieuse, bah, il est toujours là, pépère, et il est devant son poulain, hein, il est devant Bortoleto. Non, c'est plutôt bien, moi je pense qu'il faut le souligner, parce qu'on a eu des doutes, hein, moi le premier, en début de saison, et puis là, bah, il vient de scorer à 3 reprises, il est en train de remonter la pente, il est déjà au niveau de son équipier, ce qui n'est pas bien compliqué malgré tout. Quant à Stroll, bon, on a compris que lui, à mon avis, il faut en profiter cette année, hein, parce que je ne suis pas sûr qu'on le retrouve l'an prochain.
Ah oui, et puis il va surtout beaucoup te manquer, je pense, Jean-Luc.
Énormément. Non, mais je l'ai défendu longtemps parce que c'est tout vrai. Le monde lui tapait dessus, mais là, je ne le défends plus. Là. Je dois être clair, je vous l'avais dit, depuis sa conf de presse au retour, là, après sa pseudo-blessure au poignet, où il a été grotesque, ridicule, con, en un mot. Donc, allez, hop, dégage et laisse la place à quelqu'un qui a envie. Quoi. Voilà, c'est tout.
Et ben voilà, c'est tout simple. Oui. Bon, allez, on va l'écouter avec la banane à l'arrivée de la course au micro de F1 TV, Fernando Alonso.
Top good timing and then at the end a little bit lucky as well because when Gabriel
j'ai fait une très bonne course mais j'ai eu un peu de chance à la fin quand même. Dans le dernier tour, je me suis mis juste derrière Norris pour éviter que Bortoleto me double justement, mais Bortoleto a fait une super course ce week-end et je suis très content pour lui. Et du coup, c'était un parfait combo pour nous. Il a même ajouté, mais on vous l'a pas mis, ça faisait un peu trop long, qu'il allait lui payer un bon resto, puisque vous savez qu'il est son manager et que du coup, il était aussi satisfait de sa course que de celle de Monsieur Bortoleto, notre ami Alonso. C'est
C'est en même temps surprenant et en même temps sympa parce que tu te dis, dans certains secteurs, tu dirais, mais il y a trop de conflits d'intérêts. Comment c'est possible ce machin? Mais on le voit aussi en moto avec Rossi qui a aujourd'hui la VR46 et qui est vachement là-dedans. Et il y a un côté filiation, il y a un truc sympa. Ça te plaît, toi, ces pilotes qui prennent Tristan sous leur aile des jeunes, tout simplement?
Bah, puis surtout, quand le pilote, c'est Fernando Alonso, je pense que c'est surtout Gabriel Bortoleto qui est très content d'avoir cette personne comme mentor. Mais au final, il n'y a pas eu de réserve. Hein. Au final, Fernando Alonso, il a défendu son morceau de pain comme si c'était tout à fait un autre pilote. Alors, est-ce que le Fernando Alonso d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans aurait dit que c'était de la chance s'il avait réussi à garder Gabriel Bortoleto derrière? Peut-être pas. Mais non, c'est plaisant à voir. Ça donne un peu de fraîcheur au final à Fernando Alonso qui a 43 ans, il me semble. Ouais. Donc très, très, très sympa à voir. Et puis on voit aussi que ça porte ses fruits parce que Gabriel Bortoleto monte en puissance depuis le début de la saison, je trouve. Et oui, c'est intéressant à voir et aussi à voir jusqu'où ça va mener Gabriel Bortoleto à l'avenir.
Bah écoutez, on va faire un changement de conduit que j'avais mis tout à la fin. Qu'arrive-t-il au sober? Mais là, tu viens de nous faire une transition, on y va direct. Jean-Luc, Alex, oui, qu'arrive-t-il au sober? Vous avez vu que les deux voitures vertes sont dans les points ce week-end. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. En tout cas, on n'est vraiment pas habitué à les voir si haut et surtout à deux. Alors Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe là? Il y a enfin des choses qui se mettent en place
Tu sais, mon Louis, je vais t'énoncer deux évidences absolues. Ouais. Tu vas voir que c'est toujours vrai. Quand tu es au sommet, ça veut dire que tu n'es jamais aussi près de chuter.
De retomber.
À un moment, ça se termine. Et à l'inverse, quand tu es dans un tunnel et que tu ne fais pas demi-tour au milieu du tunnel, quand tu commences à apercevoir la lumière, c'est que tu vas en sortir. Non, pour être plus sérieux, il est logique, il est normal que toutes les équipes, bon, à part Alpine, non, ça c'est pour rigoler, on va y en parler tout à l'heure. Il est logique que toutes les équipes sortent du tunnel. Et c'est vrai que Sauber était au fond du trou, c'était vraiment incroyable, ils n'ont absolument rien marqué. Hein. À part si, pardon, je dis une bêtise, ils avaient marqué en Australie, un peu par hasard, ils passaient, ils ont vu des points, hop, ils les ont pris. Mais autrement, sur le mérite, ils étaient nulle part. Et les pilotes ont eu beaucoup, beaucoup de constance. Et là, on se rend compte que Bortoleto, on le savait quand même, il est champion F2 en titre, hein. il a beaucoup de talent, il a beaucoup de détermination, il a beaucoup de volonté, il est effectivement, comme le rappelaient Tristan et Alex, il est bien surveillé, bien choyé par Alonso, bien managé, donc tout ça est logique. Le travail de fond quand même, j'imagine que les dollars d'Audi, ça doit arriver là, hein, quand même, par centaines de millions, donc c'est normal qu'on améliore la situation. Ça pouvait pas se dégrader plus, vous êtes d'accord avec moi, donc ouais, il fallait que ça s'améliore.
D'ailleurs, on avait une équipe de F3, donc en même temps, j'espère bien que ça peut passer.
Voilà. Donc là, si tu veux, ils sortent un peu du tunnel, tant mieux, parce que c'est toujours un peu triste de voir comme Alpine, hop, ça y est, je l'ai redit, de voir une équipe qui est au fond du trou et qui n'en sort pas.
Voilà. C'est ça, Alex, toi, ouais. on en a souvent rigolé dans le podcast ensemble, on se disait, mais pourquoi on ne parle pas de Sauber ou est-ce qu'ils ont encore fini? Là, c'est quand même une course très solide, c'est impressionnant quand même.
On en avait parlé en début de saison et même en pré-saison, même d'ailleurs par rapport à Sauber, parce qu'ils avaient changé énormément de choses sur la voiture en préparation justement de l'année prochaine, qui va devenir dans cette écurie dans moins de 8 mois, elle va devenir écurie constructeur Audi. Donc fallait la préparer. L'année dernière, effectivement, on avait une écurie qui n'était pas là, qui n'était pas performante, une voiture qui n'avançait pas. Là, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements sur l'aéro, le système de refroidissement, ne serait-ce que sur les suspensions. C'est James Kay, le directeur technique, qui a fait beaucoup, beaucoup de changements sur cette monoplace pour l'amener à être une voiture décente, une monoplace décente, pour que Bortoleto et que Nico Hülkenberg puissent quand même bien s'acclimater à l'univers qui va devenir Audi l'année prochaine. Et puis Bortoleto, oui, champion de F2 en titre, champion F3 aussi il y a 2 ans. Hein. Il a été successivement F3, F2 champion. Nico Hülkenberg, qui a était très très bon du côté de chez Haas l'an dernier, montre vraiment qu'il est le leader de l'écurie par rapport au fait, par rapport à son expérience et où est-ce qu'il peut guider aussi l'écurie. Et puis tu parles aussi d'argent aussi, Jean-Luc, mais ne pas oublier qu'il y a aussi des gros investisseurs qui sont arrivés, à savoir le Qatar a investi dans Audi et a apporté, s'il y avait ont pris des parts dans l'écurie, plus ont investi derrière d'une manière supplémentaire pour accélérer l'expansion du projet, le recrutement du personnel, le financement des installations et également à l'amélioration du rendement. Donc en fait, même si tu investis pour 2026, ça a un impact direct directe en fait sur 2025. Donc si on fait le cumulé, la refonte massive de la voiture, le changement du changement dans le personnel avec l'arrivée de Mattia Binotto, de Jonathan Whitley, directeur sportif de Red Bull, qui est aujourd'hui team principal de l'écurie, il y a Iñaki Urueda qui était du côté de chez Ferrari, qui est maintenant aujourd'hui du côté de Sauber Audi. Il y a plus d'argent dans l'écurie, une écurie qui a enfin trouvé forcément son plan de développement pour le projet Audi. Et voilà comment aujourd'hui Sauber est devenu plus forte en 2025, et sans rien étonnant, comme l'a dit Jean-Luc.
Et surtout maintenant, ils sont devant Alpine. Si on s'était dit ça il y a 6 mois, ouais. Quand on les voyait, oh là là, eh, on n'y arrivera pas, les amis. Enfin bref, on enchaîne. Ouais. Yuki et le baquet maudit, c'est le dossier du paddock du jour. C'est ce fameux baquet. On le rappellera rapidement. Ça a commencé il y a déjà quelques années maintenant. On a eu Gasly, on a eu Albon. Ensuite, on a eu on a même eu avant lui, on a eu Kiat qui était déjà un peu qui s'est fait valdinguer un peu entre les deux écuries, entre la petite V-Carb qui à l'époque s'appelait AlphaTauri, qui avant même s'appelait Toro Rosso, si vous suivez pas. c'est pas évident. Et donc on se retrouve ensuite avec à peu près une durée de vie de quoi dans ce baquet d'un an. Il y a Pérez qui a fait quand même un peu mieux, qui s'en est sorti, mais que ça s'est fini en eau de boudin, et maintenant on est en train de revivre la même chose. C'était terrible. Et là, en fait, Yuki qui a fait 5 bonnes années chez AlphaTauri, donc a prouvé quand même qu'il sait faire, il sait conduire une Formule 1, et ben en fait, il n'y a rien à faire dans cette auto. Jean-Luc, c'est comment un pilote peut réussir dans ce baquet?
Écoute, c'est un peu le baquet éjectable, hein, pour utiliser ouais. les mots. Alors, tu vois, j'ai retrouvé mes notes là pendant que tu parlais. Vous avez 5 minutes. Non, je vais la faire courte. Quand vous en avez marre, vous m'arrêtez. En remontant dans le temps, hein. 2025, donc Lawson remplacé par Tsunoda. On ouais. est bien d'accord. 2024, Ricciardo remplacé par Lawson. Mm-hmm. 2023, De Vries, puis Daniel Ricciardo.
J'avais oublié De Vries.
2019, ah bah ouais. Non, mais attends, tu vas voir. 2019, t'as Gasly, Alex Albon, tu as Perez. 2017, tu as Kvyat, Gasly avec Sainz puis Brandon Hartley. Mm. 2016, Daniil Kvyat, Max Verstappen. 2012, allez, je m'arrête là, Ricciardo, Jean-Éric Vergne. Et puis avant, tu as eu Bourdais, Alguersari, ouais. Scott Speed. Tu vois, il y en a qu'on a complètement oublié. Bon, bref, c'est pour dire, oui, c'est le baquet maudit. C'est vrai que le deuxième baquet de Red Bull a toujours été, donc on vient de le dire, un baquet éjectable. Très peu de pilotes, on pourrait les citer, ont réussi à tenir la rampe et à tenir la distance. Et finalement, avec le recul, bah on se dit que ce bon Pérez, il a pas été mauvais du tout. Hein. Bah il a quand même été vice-champion du monde. Bon, c'est vrai que la monoplace dominait, l'écurie dominait à ce moment-là. Mais bon, il faut le faire quand même. Hein. Il n'y a pas de raison. Et la raison pour laquelle Pérez est sur les tablettes, là aussi, de Cadillac, hein, c'est que c'est un pilote solide et d'expérience. Donc oui, le pauvre Yuki, bah, moi ça me fait mal au cœur aussi, parce que je pense qu'effectivement il vaut mieux que ça, mais là il est paumé, ça se voit, hein. Il sait plus quoi dire, il sait plus quoi faire, il a dit je veux bien changer mon pilotage, je veux bien faire autrement, je ne comprends pas pourquoi je n'avance pas. Donc le problème est là, et tant qu'il n'a pas compris, alors on lui laisse un petit peu de temps. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Marco se réveille du pied gauche un jour et dise « bon allez, hop, on dégage et on met je ne sais qui ». Alors moi je l'ai dit depuis le début, en tout cas ne mettez surtout pas Jarre s'il vous plaît, ah oui, vous allez nous que... le cramer, ouais. Donc ne le mettez pas. Et Lawson il l'a déjà donné, je pense que voilà le problème. Donc effectivement c'est un baquet maudit, d'autant que c'est une année où la monoplace est extrêmement difficile à exploiter, il n'y a que Verstappen qui arrive et c'est bien pour ça que c'est le meilleur pilote de la grille.
On en est arrivé quand même, comme tu viens de le dire Jean-Luc, à ne pas souhaiter une ce qui est à la base une promotion pour Isaac Hadjar, parce que c'est devenu une broyeuse à pilote ce baquet, Tristan.
Ben oui, et puis quand Jean-Luc le disait très bien, quand on voit Yuki Tsunoda en interview à l'arrivée, c'est d'une tristesse. Ces interviews, elles durent une vingtaine de secondes et en gros, ce qu'il dit, c'est bah, « je suis juste lent et je trouve pas de solution ». Et ce qui est encore plus triste, c'est que la réglementation, elle arrive bientôt à son terme. Et moi, ce que je comprends peut-être, parce que c'est dans la conception de la voiture, mais pourquoi ne pas laisser Yuki Tsunoda essayer de faire un petit peu à sa manière, de transformer un petit peu second baquet Red Bull? Alors, est-ce que c'est parce que le développement complet du châssis, de toutes les pièces aérodynamiques, a été fait vraiment pour Max Verstappen? Ou alors, est-ce que c'est Red Bull qui souhaite que ce soit comme ça? J'arrive pas à savoir. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment désolant de voir Yuki Tsunoda. Et j'allais dire, avant ce Grand Prix, au final, il ne fait pas beaucoup d'erreurs qui coûtent à Red Bull en soi. Il n'est juste pas forcément très rapide. Mais quand on voit son erreur là avec Franco Colapinto, bah, en plus, ça n'aide pas forcément son cas, quoi. Quand on voit que sur l'extérieur, il vient taper Franco Colapinto et il prend, il me semble, 10 secondes de pénalité, bah, derrière, ça aide pas non plus pour le moral. Donc, à voir comment Red Bull gère ça une nouvelle fois. Mais oui, s'il vous plaît, ne touchez pas à notre Isaac national, s'il vous plaît.
On va t'appeler Monsieur Transition, Tristan, puisque tu nous as parlé de Colapinto. Et c'est là que je vais me tourner vers Alex, puisque en fait, aujourd'hui, on a envie de dire que s'il y a un baquet qui est en train... Tu vois, Alpine, ils se sont dit, Red Bull, c'est les meilleurs, on va faire comme eux. Mais ils ne se sont pas dit, on va faire une bagnole plus rapide. Ils se sont dit, on va mettre un panier de crabe.
On
va mettre un panier de crabe dans le deuxième baquet. Et voilà. Et donc, Alex, on est sur les mêmes pentes, en fait, puisqu'on a, Douane qui a été là pour 6 courses. Et tu vas nous raconter un peu que Colapinto, le siège, il a l'air éjectable aussi, hein.
Bah, le siège est clairement déjà éjectable et visiblement, malgré tous les millions que peuvent apporter les sponsors de Franco Colapinto, bah, ça ne peut visiblement rien changer à son sort. Alors Franco Colapinto, il faut quand même le rappeler, il a remplacé Jack Doohan au moment du Grand Prix d'Emilie-Romagne à Imola. Séance de qualification première, séance de qualification avec Alpine pour Franco Colapinto, il met la voiture dans le mur. Bizarre. C'est quand même pourquoi se prendre pour Lewis Hamilton à un moment où tu ne connais pas la voiture, et à un moment il faut juste que tu fasses en sorte que tu puisses faire en sorte de terminer une séance de qualification et prendre confiance dans cette voiture. Et là il a voulu trop en faire, et en fait c'est ça en fait Franco Colapinto depuis qu'il est du côté de chez Alpine, c'est qu'il veut trop en faire. Alors il y a un point où par contre où je vais peut-être trouver une raison à pourquoi il fait l'avocat du diable par rapport à Franco Colapinto, c'est qu'il a en patron Flavio Briatore. Et Briatore, la pression qu'il met à ses pilotes, et même à Pierre Gasly, hein, d'ailleurs, où il n'avait même pas assuré l'avenir de Pierre Gasly, bien sûr. Franco Colapinto, il a Briatore en patron qui lui met tout le temps la pression. On a vu ce que la pression pouvait faire, notamment à Jack Doohan, avec un accident qui aurait pu être nettement évitable au Japon lors d'une séance d'essai libre. Là, Franco Colapinto, il veut trop en faire, et ça se voit, notamment parce qu'il s'est passé encore une fois en Autriche. Au-delà du fait qu'il n'est pas du tout dans le rythme, il est à des années-lumière, quand même, il faut le dire, de Pierre Gasly en termes de rendement et d'efficacité. Bah, il a fait notamment une petite bêtise sur Oscar Piastri, il a failli le foutre dehors, il lui a pas fait attention qu'il était là, alors qu'il y avait de multiples drapeaux bleus, notamment qui s'agitent sur le volant. Peut-être qu'il y a eu une erreur de l'ingénieur qu'il a pas prévenu, qu'il y avait Oscar Piastri notamment lorsqu'il était en train de dépasser le deuxième du Grand Prix à ce moment-là. Mais maintenant, aujourd'hui, ce siège est éjectable parce que on a appris ce matin, au moment où on se parle, lundi 30 juin, que Flavio Briatore s'est renseigné auprès de Mercedes pour pouvoir potentiellement recruter un certain Valtteri Bottas qui est sur les tablettes de Cadillac et qui devrait potentiellement même d'ailleurs être un pilote Cadillac pour 2026. Il s'est renseigné pour prendre le pilote de réserve du côté de chez Mercedes pour l'amener derrière du côté de chez Alpine pour remplacer derrière Franco Colapinto. Donc la deuxième voiture d'Alpine pourrait avoir un troisième pilote, et normalement, si je ne me trompe pas sur la réglementation, il sera impossible derrière pour Alpine de rechanger de pilote.
Et si c'était pas une mauvaise idée, Valtteri Bottas?
Ah, Tristan.
Mais évidemment que c'est une très bonne idée, c'est Valtteri Bottas.
Vas-y, Tristan, dis-moi ce que t'en penses, toi.
Je sais pas comment ils arriveront à sécuriser, s'ils arrivent à avoir Valtteri Bottas, mais si en plus derrière ils arrivent à sécuriser un pilote qui a une telle expérience, qui a vraiment connu le haut niveau, enfin on parle de Mercedes dans ses années de domination les plus importantes, derrière, s'ils arrivent à sécuriser Valtteri Bottas pour 1-2 ans de plus et le début de la nouvelle réglementation, mais pour moi c'est un coup de poker immense. Alors pour 2025, ce sera peut-être pas forcément une très bonne idée parce qu'il va arriver dans l'équipe, etc. Mais à l'avenir, si Alpine veut construire un projet viable, avoir un pilote de référence comme Valtteri Bottas et un pilote un peu plus jeune, même si au final il a déjà de la bouteille, comme Pierre Gasly, pour moi c'est une très bonne idée.
Ouais.
Mais il ira pas, hein. Si vous voulez mon avis, c'est vraiment un remplaçant. Parce qu'il ira chez Cadillac, évidemment, avec Pérez, probablement. Et là, j'allais venir à l'option Pérez, hein, on n'en a pas parlé, on parle de Bottas, mais Pérez, vous savez qu'il est aussi, enfin, Briatore aimerait bien le recruter, surtout avec ses dollars aussi. Donc, pourquoi pas Pérez, tant qu'à faire, si c'est pour effectivement mettre un pilote qui pourrait rester par la suite. Alors, je voulais revenir sur les chiffres, parce que le pauvre Doohan, alors, il fait exactement 13, 15, 14, 17 non classés. Quant à Colapinto, il fait 15, 13, 15, 17, 19 et 15. Voilà.
C'est une chose actuelle. On ne remplace pas un pilote par un pilote qui est encore plus mauvais. et qui ne fait pas mieux que ton ancien pilote.
Ah, pas forcément plus mauvais, pas forcément plus mauvais. En tout cas, qui a moins d'expérience, peut-être. Mais
dire que Colapinto est. Il n'est pas meilleur.
Oui,
mais dire qu'il est mauvais, faut peut-être pas. Enfin, quand on voit la saison qu'il a fait, le peu de saison qu'il a fait chez Williams, c'est pas.
Non, le début, rappelle-toi, chez Williams, après, il en a mis dans le mur, tu te rappelles.
Oui, oui, oui. Mais
même James Vols, il n'en pouvait pas.
Parce que la pression était différente pour Franco Colapinto du côté de chez Williams. Et c'est pour ça que je faisais l'avocat du diable, justement, avant, par rapport à Franco Colapinto, en disant que le patron qu'il a aujourd'hui, Fabriator, lui met une pression de fou, et performer pour un pilote qui n'a pas d'expérience en Formule 1 ou trop peu d'expérience en Formule 1, c'est très compliqué quand t'as quand même un Fabriator en tant que patron.
Ouais. C'est... De toute façon, chez Alpine, il y a quand même beaucoup de choses qui font que c'est compliqué, hein, globalement.
Oui.
Surtout qu'on parle, mais Briatore n'est même pas sûr de rester du côté de chez Alpine avec tout ce qui se passe dans le groupe Renault aujourd'hui aussi.
Ouais, oui.
Mais même pas de choses.
Je suis en train de chercher mon papier avec tous ceux qui se sont succédés chez Alpine. Mais c'est pas un papier, là, j'ai trois feuilles. Donc...
Non, c'est pas possible. On se fera ça cette année. Et on remontera très loin pour voir tous ceux qu'on a oubliés parce qu'ils sont restés 5 mois et demi.
Bon, les amis, on s'approche de la fin, mais un petit mot sur Williams et son week-end cauchemardesque, c'est pas évident à dire. Jean-Luc, en quelques mots, tu nous racontes, ça a commencé avant même le départ avec Carlos qui est pas parti.
Ah ben oui, je vais dire même catastrophique. Hein. Carlos, 19e en qualif. Bon là, c'est déjà qu'il y a un problème. Donc il était censé partir de la dernière ligne. Et puis après, on hésite entre... Lui, il a dit ma boîte était bloquée en première. Bon, quand même, quand la voiture a pris feu, une fois qu'il a fait le deuxième tour de formation et qu'il a essayé de s'arrêter dans les stands, on a compris que c'était les freins quand même qui avaient pris feu. Alors c'était terminé, quoi. Évidemment, ça commence comme ça. Et puis après, le pauvre Albon, pour la deuxième fois, hein, on le retire de la course, c'était déjà le cas au Canada, pour une raison mystérieuse. D'ailleurs, on n'a pas vraiment commenté ce qui se passait. Est-ce que c'est lié au refroidissement, alors qu'au Canada, il faisait pas très chaud, là, il faisait très chaud. Bon, bref, en tout cas, là, c'est la mauvaise pente, hein, alors qu'on a vu Williams vraiment très, très bien jusque-là. Williams qui a d'ailleurs accumulé également les points. On en est quand même à 55 et on est 5e au championnat. Mais attention, les autres se rapprochent maintenant. Donc, c'est une mauvaise passe. Il va falloir en sortir. C'est ce que Carlos a dit. D'ailleurs, Carlos, maintenant, il a la carrure, il a l'expérience, il a le palmarès. Il a dit, bon, maintenant, il faut se réveiller, les gars. C'est la fin de la récré. D'autant que, évidemment, on arrive en Grande-Bretagne et que pour toutes les écuries, c'est-à-dire, autant dire, pour toute la Formule 1, à part Sauber et Ferrari, hein, c'est le Grand Prix le plus important puisque c'est le Grand Prix à la maison. Donc, il va falloir que ça fonctionne, quoi. Et qu'on a un moteur Mercedes, je rajoute ça en plus.
Évidemment. Alex, un mot sur Williams ?
Oh bah j'espère que ça va quand même aller, hein, parce que là on enchaîne quelques mauvaises petites passades entre Carlos Sainz qui a besoin de s'habituer encore plus à cette voiture et qui commençait peut-être à aller dans le bon sens, et Alex Albon qui a un message critique sur sa voiture et qui est dans l'obligation d'arrêter sa performance. Enfin, c'est très dommageable clairement tout ce qui se passe. Ils sont 5e au constructeur, alors ils ont une petite marge quand même sur le 6e qu'il me semblait as. Mais c'est vrai que Haas a aussi marqué des points encore une fois sur ce week-end.
Racing Bulls
et Haas, et en même temps Sauber, ces trois équipes-là sont en train de prendre quand même un certain galon et certaine confiance pour ensuite aller marquer des points peut-être potentiellement régulièrement. On parlait de Sauber tout à l'heure, mais ils ont marqué 3 fois de suite pour l'instant des points. C'est à noter quand même par rapport à Williams, qui n'a marqué qu'un point, si je ne me trompe pas, sur les 3 dernières courses. Donc ça fait un petit passage à vide quand même pour Williams.
Ouais, une mi-saison un peu compliquée, Tristan.
Mais ce qui est encore plus triste, c'est que en tout cas dans les événements qui sont passés, c'est pas forcément un problème de performance réellement de Williams, c'est un peu un enchaînement de malchance, de problèmes mécaniques et de manque de fiabilité, parce que Carlos Sainz, on sait que sa qualification apparemment elle a été troublée par ce fond plat qui a été cassé. Au final, Alex Albon, avant son abandon, est plutôt bien placé dans le Grand Prix et peut une nouvelle fois marquer de gros points comme il l'avait fait plus souvent au début de la saison. Donc c'est vrai que c'est assez triste à voir, parce que on a l'impression que c'est pas forcément pour une fois, c'est pas la performance de la Williams qui manque au pilote, mais c'est plus vraiment une question de fiabilité et un peu de chance sur les événements de course qui peuvent se produire.
Bon, et pour finir les amis, évidemment notre habituel point sur les Français, on a parlé rapidement d'Isaac quand on a abordé le sujet des baquets maudits. Isaac, un petit peu compliqué pour ce week-end-là, Alex, hein.
Ouais, ça n'a pas été un week-end simple. Il y a eu quelques petites sorties de piste, en séance d'essai libre, mais derrière, ça peut arriver des passages à vide, même si la comparaison forcément avec Lawson, qui termine avec son meilleur résultat, d'ailleurs en Grand Prix 6e, il s'était même qualifié d'ailleurs devant Max Verstappen, c'est cette petite comparaison qui fait mal, mais vraiment, il n'y a pas de quoi être inquiet pour Adjar.
Lawson qui a montré en interview un sourire qu'on ne lui avait pas encore connu, ça fait très plaisir, puisqu'on sait quand même, Tristan, qu'il a pris cher aussi, lui.
Bah, puis, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais il vient quand même de dépasser Yuki Tsunoda en termes de points au classement en pilote aussi. Donc,
je croyais que tu allais encore nous dire qu'il vient d'être papa.
Non,
parce
mais...
que toutes les semaines,
non, mais je pense qu'il y a aussi ce petit côté-là où, bah, en plus, ça lui fait du bien parce qu'au final, depuis le début de la saison, enfin, depuis qu'il est arrivé chez Racing Bulls, Isaac avait quand même une certaine domination sur lui, soit en qualif ou en course. Et là, il a un peu remis les pendules à l'heure. Alors, un peu comme Alonso, avec une bonne stratégie à un arrêt, qui lui a probablement fait finir un peu plus haut que s'il avait eu une stratégie à deux arrêts. Mais non, un week-end très complet de Lawson, et ça fait du bien de le revoir comme ça aussi, parce qu'on sait que c'est un pilote qui a une très bonne pointe de vitesse. Et pour Isaac, je pense que c'est bien aussi d'avoir des week-ends comme ça, parce que ça lui remet un petit peu les idées en place aussi. Ça le fait un peu redescendre de la bulle qu'il peut avoir. Non pas qu'il soit sur une bulle tout le temps, mais mentalement, je pense que c'est bien aussi de se reprendre des petits moments comme ça où il faut se recentrer sur soi et attaquer Silverstone de la meilleure manière possible.
Oui, ça serait pas étonnant d'ailleurs qu'il fasse un très bon week-end là-bas, connaissant un peu comment il fonctionne. Pierre Gasly, week-end compliqué, le diffuseur Canal+, Franck Montagny disait, moi je pense qu'il met trop l'aspect sur la qualif, Jacques Villeneuve également disait ça, je sais pas ce que vous en pensez, hier le début de course est plutôt bon, puis il se perd complètement dans le deuxième relais, il pense même, lui il dit qu'il y avait un souci, qu'il y avait quelque chose de cassé, que c'était vraiment pas possible d'avoir une telle différence au niveau des performances de la voiture, mais ça fait un week-end de plus compliqué pour Pierre, Jean-Luc.
Oui, alors écoute, moi pour une fois je suis pas d'accord avec Jacques Villeneuve, c'est rare, parce que j'apprécie son avis. Non, mais bah, c'est idiot de dire ça, excuse-moi, mais c'est stupide. Si t'es pas bon en qualif, t'es mal en course, enfin, c'est une évidence. Donc, il met trop l'accent sur les qualifs, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut partir devant. Hein. Là, il était dans le top 10, même s'il a terminé 10e, c'est très bien. Il avait eu accès encore à la Q3, c'est fantastique, avec la Trapanel qu'il pilote, c'est un exploit personnel formidable. Alors après, est-ce qu'il y a une raison en course ou pas? Tu sais, les pilotes, c'est toujours pareil, hein, quand ils perdent confiance, il faut trouver une raison, ou il faut leur donner une raison, pour pas qu'ils perdent totalement confiance en eux, et là c'est plus grave. Et puis il est dans un environnement très compliqué, vous l'avez tous évoqué, avec un Flavio Briatore qui souffle le chaud et le froid parfois dans la même phrase, hein. Et même lui, on comprend qu'il n'est pas assuré du tout de son baquet, ça va pas aller dans le bon sens, hein. Alors après, effectivement, en course, il est un peu perdu, il est un peu largué, il termine loin, il termine 13e, ça marche pas trop, puis surtout on n'a pas de solution, quoi. On a bien compris que c'est un peu un canard sans tête, hein. C'est un bateau ivre, Alpine, là, à l'heure actuelle, donc on va taper d'un côté, on va taper de l'autre, on rebondit, on avance un peu, y a Pierre qui tient la barre en qualif, et encore une fois, moi je m'oppose totalement, chacun peut avoir son opinion, heureusement qu'il y en a au moins un qui va vite en qualif, sinon on serait où là?
On sait, c'est vrai ça. Et pour finir, du coup, il nous en reste un. Je l'ai gardé pour la fin, puisque pour le coup, lui, son dimanche a été vraiment très performant. Et Esteban Ocon, Alex, qui se bat toujours égal à lui-même en tirant 150% de sa voiture à chaque fois qu'il monte dedans.
Ah, c'est une course typiquement Esteban Ocon. Est-ce que
ouais,
ça, c'est
exactement.
Partir en fond de grille, derrière faire le travail durant le Grand Prix, faire des très très longs relais et ensuite pouvoir exploiter au maximum possible sa monoplace en étant surtout extrêmement intelligent en course. Et il partait du fond de la grille. Une très mauvaise séance de qualification malheureusement pour lui, mais ça ne l'a pas empêché de remonter dans le top 10 et surtout prendre l'opportunité d'avoir deux pilotes éliminés, à savoir Antonelli et Verstappen. Course typiquement Esteban Oconesque, et c'est des points amplement mérités pour Haas, et heureusement.
C'est pas mal ce mot-là, Esteban Ocon.
C'est pas mal. Au départ, ça paraît pas très flatteur, mais en fait, oui.
Et au final, un week-end typiquement as-esque.
As-esque.
Parce que rempli de... Non, mais parce que rempli de haut et de bas.
De haut et de bas.
Et d'inconstance tout le temps. Mais oui, impressionnant cette course de Esteban Ocon, qui encore une fois marque des points.
Il était à deux doigts de dire Esteban Ocon.
Hein, Ocon.
Bon, vous savez quoi, on va l'écouter tout simplement, Esteban Ocon.
Looking at where we were qualifying, it's a great recovery from the whole team. We Got a little point for consolation, but,
on a pris un seul petit point pour la consolation, really, mais c'est vrai que ça veut dire beaucoup pour nous. Ça montre que la voiture, c'est une vraie voiture de course, et que si on finit par se qualifier un peu plus haut, on pourra vraiment faire des courses très solides. Et on finit dans des positions très intéressantes. C'est vraiment ce que vous avez résumé. Il faudrait partir mieux le samedi et on ferait de très bons dimanches chez Haas. Et ça laisse peut-être présager, si la réglementation leur offre une voiture correcte, de belles choses. Parce qu'on sent que c'est quand même une écurie qui a remis les choses dans l'ordre depuis le départ du meilleur ami de Jean-Luc Roy, Günther Steiner.
Bah écoute,
c'est combien de temps que vous n'avez pas bu un café ensemble?
Ah, Günther. Non, mais Esteban, c'est un bonheur parce que vraiment en course, hein, il est solide. Il ne laisse rien passer. J'ai souri un petit peu au moment de la petite passe d'armes entre Pierre et Esteban. Hein, vous voyez pourquoi. Ouais. Effectivement. Puisqu'ils étaient ensemble, et on ne peut pas dire qu'ils ont passé leurs vacances ensemble cet hiver, donc ils ont pris des chemins différents. Et ça me réjouit de voir Esteban adorer toujours autant piloter. Alors effectivement, contrairement à mes bons camarades, là aussi je vais dire, s'il partait devant, s'il partait 12e ou dans le top 10, je pense que les performances seraient encore plus du niveau. C'est une évidence, hein. C'est tellement important aujourd'hui de bien partir sur une grille en F1.
C'est quand même un petit peu important. vous nous avez régalé là, ce Grand Prix d'Autriche était bien sympathique. Et puis on reste dans les starting blocks parce que ça repart dès cette semaine. On va en Angleterre à Silverstone, dans le temple de la Formule 1, ce circuit mythique avec Magot, Beckett, Chappelle et autres cops et tous ces petits noms anglais, pendant que d'autres circuits appellent leur virage 1 le T1, par exemple.
C'est quand même plus sympa. Un petit mot, si tu veux bien, Louis. Dis-moi. Je voulais parler de Bernie qu'on a revu.
Je suis impardonnable.
C'est peut-être la dernière fois qu'on aura l'occasion d'en parler. Hein, tu vois ce
Parle-nous
que je veux dire.
De Bernie qui a remis donc la médaille FIA sur le podium à Lando.
Bah oui, voilà, écoute, alors pour une fois, je vais dire du bien de notre ami Mohamed Ben Soulayem. Eh oui, je ne sais pas souvent, mais là, il a instauré cette remise de médaille, donc c'était la 11-36 pour être précis, remise par Bernie Ecclestone, qui en 70 ans de Formule 1, écoutez bien, n'avait jamais mis les pieds sur un podium, lui qui a été le maestro, le patron de Brabham, et puis le grand patron, c'est lui qui a fait de la F1 ce qu'elle est devenue, hein. C'est pas Liberty Media, évidemment, donc c'est lui qui a fait tout le boulot. Moi, ça m'a fait plaisir de voir qu'il avait toujours bon pied, bon œil, et surtout les expressions toujours aussi acérées. Et donc, il a remis cette médaille. Puis vous savez, les coupes, c'est bien, mais quand vous commencez à les collectionner, ça prend la poussière, on ne sait pas où les mettre, ça finit dans le garage, etc. Alors qu'une petite médaille, eh bien, je pense que pour le pilote, c'est plutôt sympa. Donc, merci notre ami Mohamed d'avoir remis ça en place, et merci d'avoir demandé à Bernie de revenir sur un circuit, lui qui a un petit peu pris de l'écart et avec le milieu depuis qu'il a quitté les affaires. Voilà.
Ouais, il a fait, tu m'as dit, 70 ans dans le monde de la F1, c'est quand même c'est impressionnant.
Il a d'abord été pilote, Bernie, hein, je ne vais pas vous raconter toute son histoire, mais elle est longue et intéressante. Alors, à l'époque, effectivement, il n'avait pas que des amis, parce qu'il avait des méthodes aussi qui étaient un peu brutales, mais c'est lui, comme il dit, c'est lui qui a rendu tous les patrons d'équipe billionnaires, on dirait aujourd'hui. Voilà, c'est lui qui a fait de la F1 ce qu'elle est devenue, puisqu'il a d'abord été patron de cette équipe Brabham jusqu'au milieu des années 80, et entre-temps, il avait créé la FOCA, donc Formula One Constructor Administration, et c'est ça qui a permis de valoriser au plan commercial. Il y avait toujours la fédération qui s'occupait du sportif, puis vous vous rappelez de la cohabitation pour le mois animé avec notre ami Jean-Marie Valestre, ça a été chaud bouillant. Hein. Après, c'était beaucoup plus cool avec Max Mosley, qui était son avocat et qui était anglais comme lui, donc ça s'arrangeait beaucoup mieux. Voilà.
Bon, en tout cas, c'était très sympa de revoir Bernie Ecclestone sur ce podium. Les amis, le drapeau à damier du warm-up est en train d'être agité. Messieurs, merci à vous. Et puis, chers auditeurs, je vous souhaite une super semaine sous 40 degrés. Il va faire très chaud. Semaine vie ma vie de pilote de F1 à Singapour. Je l'ai appelé comme ça, puisque je pense qu'on va suer et perdre beaucoup d'eau. Donc, soyez prudents avec vos vieux. Et n'oubliez pas notre page Insta et TikTok RMC Formule 1. Et de nous noter sur les podcasts, évidemment. Messieurs, ciao!
Ciao, ciao.
Salut.
Allez, à jeudi, n'est pas Racing qui veut.
Le paddock RMC.